Sur cette portion d'autoroute où la vitesse est limitée à 80 km/h en raison de travaux, la plupart des automobiles nous doublent à plus de 100 km/h. Il semble que le seul remède contre l'excès de vitesse soit la peur quasi ancestrale du gendarme. Pour peu que sa silhouette se profile à l'horizon, les stops des voitures saluent. Comme quoi, l'on ne doit pas trop faire confiance au sens de la responsabilité du conducteur. Il y a pourtant au moins deux raisons indiscutables de respecter la limitation de vitesse.
Les vitesses que l'on indique, c'est pas fait comme ça. Ça correspond à quelque chose de précis. Ça correspond à un rayon de courbure, ça correspond à une distance de signalisation, ça correspond à la longueur d'une bande jaune, par exemple. Quelquefois, il faut reconnaître que ça nous échappe. On se dit, mais enfin, bon, là, on pourrait aller plus vite. Non, c'est bien fait. Alors, au fond, si vous allez au-delà, eh bien, votre vitesse ne correspond plus aux distances prévues.
Bonjour Pascal Diby.
Bonjour.
Vous êtes ethnologue, professeur à l'Université Paris Diderot, auteur notamment du Village métamorphosé aux éditions Plon. Le fait de limiter la vitesse à 80 km/h sur certaines routes secondaires, est-ce que cela va modifier notre perception du paysage ?
C'est une bonne question. Est-ce qu'on voit mieux quand on va lentement ? Et est-ce qu'on est capable de regarder un paysage ? Ça, c'est encore autre chose. Mais si je pose cette question-là, il faut faire attention parce qu'il pourrait bien légiférer sur l'interdiction de regarder le paysage. Et ça pourrait arriver très vite. Donc, effectivement, quand on conduit, je pense qu'on a des œillères et que tout est fait pour nous concentrer sur la bande jaune ou la bande alternée. Donc, je ne crois pas que ça change la relation à l'espace. La voiture est faite pour enfermer quand même.
En tout cas, la route est aussi ce qui modifie profondément notre paysage avec les échangeurs autoroutiers, avec les ronds-points, les très fameux ronds-points que la France accueille de manière extrêmement large, les zones commerciales, les parkings géants, les lotissements qui eux aussi ne sont accessibles que parce qu'il y a des réseaux routiers secondaires et tertiaires qui sont installés. Pascal Diby, la notion de France moche signifie-t-elle quelque chose pour vous ?
Ben déjà, le terme « moche » est intéressant parce que, dans le fond, c'est un terme qui est lié à la société industrielle. Il est né de la description des écheveaux pour le tissage, et ça voulait dire effectivement quelque chose qui est complètement indémêlable d'une certaine façon. Et c'est un terme qui est arrivé dans les années 1880, dans ces années-là. Après, on l'a utilisé, c'est intéressant aussi, parce que même si c'est une machine, on l'a dérivé vers la description du physique de l'autre. On dit « il est moche » ou « elle est moche ». Et puis très vite est arrivée l'idée de quelque chose de mochard. Et donc c'est un terme très récent. Mais ce qui est intéressant justement, c'est la façon dont la société industrielle, ou aujourd'hui la société, je dirais, plus contemporaine, fait qu'on voit l'autre à partir d'une vision d'un ordinateur, alors que nous ne sommes pas des ordinateurs. Et de la même façon, on a commencé à voir cette ville avec ses déchets industriels, dans le fond, en disant « c'est moche ». Et on a commencé à voir ça dans le paysage. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'un paysage est beau ou qu'un paysage est moche ? Qu'est-ce qui nous dit qu'un paysage est authentique ? Je dirais que la question de l'authenticité, c'est la question première qu'il faut poser par rapport à l'espace, justement. Et moi, ce qui m'amuse aujourd'hui, c'est que ça soit en Bourgogne ou ailleurs, on recrée des paysages authentiques. Mais un paysage, il est fait pour évoluer, il est fait pour bouger. Donc, justement, cette idée de transformation fait qu'on croit que l'œil s'habitue. Non, l'œil invente.
Qu'est-ce que c'est un paysage, un nouveau paysage authentique ?
Eh ben, par exemple, on va revoir dans des champs, on va revoir des vraies vaches avec des cornes qui sont mises là comme décor d'ailleurs, parce que dans la réalité, elles sont pas utilisées comme vaches à lait ou comme autre chose. On va voir des chevaux. Alors on dit, tiens, il y a des chevaux, en réalité, ce sont des chevaux d'attelage pour les retraités des villages, qui c'est une façon pour eux de rester en contact avec la nature. Et avant, on voyait pas de chevaux dans les champs, ils étaient dans l'étable parce qu'ils se restauraient pour travailler le lendemain, etc. Donc on est persuadé que notre paysage est embelli par la présence d'animaux qu'on voyait plus, etc. En fait, c'est une invention, encore une fois, qui fait que le paysage, dans le fond, c'est celui qui est inventé par les grands peintres. Et on se range à l'idée, effectivement, de la beauté décrite, je dirais, dans les musées.
Il y a aussi une architecture néo-régionale qui, elle, est alors bien souvent imposée par un certain nombre de normes. Les bâtiments de France, la France de la tuile, la France de l'ardoise. Oui. Et on voit réapparaître des longères, des fermes des Flandres qui sont évidemment adaptées à l'architecture moderne, Pascal Diby.
Alors, la longère va se développer. Je vais vous dire pourquoi la société est en train de vieillir. Et nous nous sommes en train de devenir majoritaires au-dessus de 60 ans. Et donc, on va habiter des longères parce qu'il n'est plus question de monter des escaliers. Et je vois moi-même dans mon propre village des gens me dire, bah non, j'habiterai plus ma maison, il y a un étage. Je suis en train de chercher une longère pour plus avoir d'étage à monter. Donc, cette fameuse influence régionale fait que ces longères, elles vont être inventées. Elles existent dans le Morvan. Elles existent un peu partout. Mais le terme même est en train d'être redécouvert, mais comme espace utilisable pour des gens, pour des questions pratiques.
Quand vous avez publié le village métamorphosé, qui était le terme d'une découverte, alors le Morvan, Lyon plus précisément, pour vous, puisque vous avez étudié notamment le village de Chichny, qui est entre Joigny et Auxerre, vous avez suivi en quelque sorte ces métamorphoses. Qu'est-ce que vous avez observé principalement, Pascal Diby ?
Eh bien, j'ai simplement découvert que nos yeux ne voient pas ce qu'on nous montre. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'interpréter ce qu'on voit si on ne sait pas comment la chose a été faite. Et je prenais l'exemple des vaches. Effectivement, aujourd'hui, les vaches n'existent plus. On les voit encore dans les champs. Mais c'est devenu des UGB, des unités gros bovins, qui sont des vaches qui appartiennent à des troupeaux génétiques, qui sont originaires d'un taureau génomique, et qui fait qu'en réalité, c'est du bétail industriel, mais qu'on présente encore dans un cadre rural, si je puis dire. Alors voilà un exemple. De la même façon, vous allez voir aussi de champs magnifiques. Alors, à une époque, on a eu la grande envie d'avoir des jachères partout, donc on a fait des jachères fleuries pour flatter les yeux des visiteurs. Puis la jachère a l'air d'être un petit peu passée, on est retourné d'une certaine façon au système, triannuel, etc. Et là, cette fois-ci, ce qu'on voit, ce sont des non-labours. Regarde comme ce labour est beau, c'est un non-labour. Donc finalement, notre œil voit des choses sans pouvoir les traduire, puisque logiquement, on est influencé beaucoup plus par les riches heures du duc de Berry, avec l'idée qu'il y a des saisons. Et aujourd'hui, on traverse des espaces, mais l'agriculture, la culture de la terre, n'a plus rien à voir avec les saisons. Donc en gros, les agriculteurs travaillent maintenant du mois de mai jusqu'au mois de septembre, et la chose est faite. On passe à autre chose. C'est différent quand il y a l'élevage, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on continue toujours en retard sur la vision.
Mais justement, lorsque l'on va dans ces paysages de Lyon que vous connaissez bien, et qui est une France qui était un monde plein agricole, qui ensuite est devenu un monde industriel, puis qui s'est désindustrialisé avec beaucoup de friches, si on prend par exemple autour de Clamcy, par exemple, même à côté de Vézelay. Donc on voit qu'on a affaire, Pascal Diby, à une France qui a beaucoup évolué, qui également a été relégué par moments.
Oui, alors c'est l'histoire de la désertification, c'est-à-dire le moment où l'occupation des sols se transforme et fait que la demande, effectivement, va se développer d'avoir une nature naturelle. Mais en réalité, la nature a toujours été naturelle puisque l'homme lui-même était inscrit dans la nature. Mais cette idée-là fait que le paysage, d'ailleurs, a énormément changé. Si vous preniez des photos d'il y a 40 ans et des photos d'aujourd'hui, il n'y avait pratiquement pas de bois. Aujourd'hui, il y a des bois partout, on voit bien que les choses se rétrécissent. Et par contre, vous avez des déserts entiers qui se développent le long de Lyon ou dans des coteaux relativement fertiles. Donc ça, c'est une première vision, effectivement, du paysage. Et en même temps, vous avez derrière une poussée de demande, si je puis dire, de transformation de l'espace, mais qui est constamment, justement, je dirais, contrebalancée par le désir du déplacement, c'est-à-dire cette espèce de folie contemporaine de la mobilité qui fait qu'une route non carrossable est une route qu'on ne peut pas emprunter. Et donc, on en est là à créer effectivement des systèmes de communication, je dirais, plus doux. Et en même temps, on voit bien que il faut... L'histoire des 80 km heure que vous avez posée tout à l'heure, celle de regarder les paysages, dans le fond, nous dit non, il faut qu'on réapprenne à se déplacer. On est passé si vite de l'homé, c'est-à-dire du pas de l'homme, où les villages étaient distants de 3,5 km chacun, de façon à pouvoir faire l'aller-retour dans la journée sans grande fatigue. Aujourd'hui, les Français font en moyenne 47 km par jour en voiture, donc c'est déjà une distance énorme. Et donc, on pensait qu'on pouvait aller vite, et on nous dit « attention ». Commencer à aller lentement, parce qu'aller vite, ça dépense de l'énergie, ça fait de la pollution, etc. Et on nous fait des voitures qui vont très vite, et on nous dit, ne vous en servez pas, surtout ne rentrez pas là-dedans, etc. Donc on est dans un tissu de contradiction, et je crois, et je pense d'ailleurs, que le rapport justement à l'espace et au temps, dans le fond, est une expression contradictoire incessante dans notre vie quotidienne.
La route, elle a modifié les villages aussi parce qu'il y a beaucoup de villages-rues. Il y en a dans Lyon, pas uniquement dans Lyon, bien entendu, mais ça, et cela modifie à la fois l'urbanisme, la manière dont on peut habiter également un village, Pascal Diby.
Oui, je pense que là aussi, ce qui s'est passé quand j'ai fait mon travail sur Chicherie, je me suis rendu compte qu'on ne se déplaçait plus qu'en voiture. Et en fait, pour faire 200 mètres, on prend sa voiture pour une bonne raison. C'est que si jamais on a besoin d'aller acheter du pain ou des allumettes, il faut qu'on fasse 4 km ou 3,5 km. Donc il faut aller au village d'à côté. Donc un déplacement entraîne toujours une aventure possible. Jadis, on la faisait à pied avec l'idée qu'on allait peut-être aller au champ sur le tracteur, etc. Donc on pensait que le temps était relativement élastique. Mais aujourd'hui, c'est en distance. Si jamais on avait quelque chose à faire, il vaut mieux prendre sa voiture que de revenir la chercher, la sortir, etc. Donc on est toujours en prévision d'une transformation et finalement on en a pris l'habitude, c'est-à-dire que la voiture est nos secondes jambes.
Ce qui veut dire aussi que dans ces villages, et il y a bien souvent peu de commerces qui sont encore ouverts, il y a parfois une boulangerie encore, une épicerie, et vous faites non de la main, il n'y en a peut-être plus chez vous.
Il a failli en avoir une autre, mais bon, là c'est une épicerie coopérative, ça n'a pas marché, etc.
La boulangerie, plus de boulangerie?
Non, plus de boulanger, plus d'épicier, plus rien. On va au village d'à côté.
Et peut-être aussi à l'hypermarché ou au supermarché?
Ah, bien sûr, justement, dans la zone d'Auxerre. Alors ça, c'est intéressant parce que ça définirait la ville, Auxerre comme ville. Et quand on demande à un enfant s'il aime aller à Auxerre, il dit oui, je vais souvent dans un supermarché. Ça veut dire il est à 1 km d'Auxerre. Et généralement, ou même trop souvent, avant l'âge de 12-13 ans, ils ne sont pas rentrés dans la ville. Et quand je leur ai posé la question, mais pourquoi tu ne te promènes pas dans Auxerre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse à Auxerre? Il n'y a rien à vendre. Donc, en gros, ce qui est devenu la ville, c'est devenu en fait la zone commerciale. Et c'est l'espace où on consomme. Si l'espace n'est pas fait pour consommer, il n'a pas d'existence. Et on voit justement comment les villes s'amenuisent de l'intérieur avec la disparition des magasins dans les centres de la ville parce que tout le monde s'achalande ailleurs.
Ce qui veut dire que la sociabilité villageoise, la manière dont on vit dans les villages, dans les petites villes, elle aussi a nécessairement été modifiée par cela.
Totalement, je pense qu'on vit de plus en plus en réseau. Il y a le réseau familial, d'une part, qui permet une vie effectivement physique et sentimentale, si je puis dire. Et puis, il y a la vie par réseau ou par le biais d'Internet. Soit on se spécialise, je sais pas quoi, on fait du golf, du tennis, de la chasse ou autre chose. Et puis, en même temps, on vit dans la relation, dans la communication Internet de façon, je dirais, globale, avec 3 ou 4 heures par jour devant la toile.
Qu'est-ce qui a changé par rapport au village où vous étiez enfant, ce village de Lyon?
C'est le temps. Comment se fait-il qu'en étant dans le même espace, dans la même maison, à l'ombre du même clocher, les choses se soient accélérées à une telle vitesse? Et en réalité, on a trouvé, on a rencontré, on a emporté avec nous le temps urbain, c'est-à-dire cette espèce de presse constante d'avoir des choses à faire dans une urgence absolue. En réalité, rien n'a changé, ni dans l'espace, ni dans notre vie, sauf l'accélération incroyable de choses à faire dans la journée. Alors ça, c'est un mystère philosophique.
Est-ce que ça veut dire que le temps, le rapport au temps a changé? Est-ce que ça veut dire, par exemple, que la distinction entre ville et campagne n'a plus de sens pour vous?
Elle en a un dans la mesure où la campagne reste un espace, je dirais, tranquille, au sens où il n'y a pas d'accélération, effectivement, proposée. Mais dans la réalité, les gens qui ont pris la décision de partir à la campagne sont en fait des rurbains, c'est-à-dire qu'ils veulent le cadre de la ruralité, mais ils voudraient tous les services de l'urbanité. Alors le problème, c'est qu'on a emporté la ville sans penser que dans le fond, c'est pas la cité qui compte, c'est l'urbanité, c'est-à-dire le vivre avec l'autre. Et quand on est dans des espaces où on ne se rencontre plus, on n'a plus aucune raison de vivre avec l'autre. Donc de la rurbanité, on va emporter ce qui définit la ville aujourd'hui, c'est-à-dire cette difficulté effectivement de décrire ou de définir une ville de plus en plus. Cette ville est en train de se construire sans frontières, sans bornes, sans murs, sans portes. Et ce que s'étend, c'est effectivement le périurbain. Et le périurbain a tellement été négligé que commencer par définir la ville par son ouverture sur la non-urbanité fait qu'il n'y a plus de raison d'être en ville.
C'est probablement un thème et un terme également qui est apparu dans le débat public, celui de périurbanité. Qu'est-ce qu'il désigne pour vous qui êtes anthropologue, Pascal Diby?
Ben justement, c'est l'absence de bornes. C'est-à-dire, c'est la ville qui nous apparaît comme étant un non-espace. Aujourd'hui, les urbanistes disent qu'il se définit la ville contemporaine, c'est sa non-définition. C'est un peu bizarre de dire ça. Mais en même temps, si vous regardez en arrivant en train dans quelque ville que ce soit, je sais pas, Dijon, Auxerre, ailleurs, etc., ce qui définit l'arrivée dans une ville, c'est la zone commerciale qui est à l'extérieur de la ville, que ça se ressemble partout, je sais pas, l'arrivée sur Aix-en-Provence ou ailleurs, c'est les mêmes entrées. C'est-à-dire, c'est des non-entrées, c'est des espèces de friches qui sont pas encore des friches, c'est des lieux non utilisables autrement, justement, que dans des déplacements avec une voiture, par exemple. On peut pas marcher, on peut pas flâner. Et ce qu'il y avait de fort dans la ville, c'était sa dimension huître, si je puis dire. C'est-à-dire la possibilité de l'ouvrir, ou qu'elle s'ouvre toute seule, et que toute ville était une perle régionale. Donc on y allait pour pouvoir découvrir des choses, mais on franchissait une porte, on franchissait un panneau, en tout cas, qui nous définissait l'espace dans lequel on rentrait, et on espérait qu'on allait rencontrer, effectivement, ce qu'on ne voyait pas dans la campagne, c'est-à-dire des monuments, des espaces particuliers, des traces. Et quand les espaces n'ont plus de traces, ou quand les espaces sont faits pour ne pas laisser de traces, parce que ce sont des espaces éphémères et contemporains, bien, ça pose un problème de repère.
On prête des caractéristiques sociales, sociologiques à la France périurbaine. On a raison, selon vous?
Mais j'en sais rien. Ce que je constate, si vous voulez, c'est un constat, c'est pas un jugement. C'est qu'une société qui n'a plus d'urbanité n'a plus de raison de vivre ensemble. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rentrer en contact avec l'autre? Eh bien, les choses ont radicalement changé. On apprend à ne plus parler, mais à s'invectiver. Quand on parle, on utilise donc la langue pour se dire des choses fortes. Mais par contre, on va se faire des mails, on va parler, etc., par le biais de l'écriture. Alors, c'est très contradictoire, parce qu'en même temps, on parle de ces enfants qui ne savent plus écrire. Ils passent leur vie à lire et à écrire, à leur façon. Donc, il nous échappe complètement. Et justement, il y a plus contrôle possible à travers le système social de la vie en commun.
Mais pourtant, on n'arrête pas de nous dire que la France se caractérise par un tissu associatif. Il y a de plus en plus...
Ça, c'est vrai. Quand dans les campagnes, il y a énormément d'associations qui existent avec des coopératives nouvelles, avec des propositions de vie différentes, avec là aussi de la bio qui commence à monter. Mais c'est justement généralement des urbains déçus par la non-possibilité d'exister dans les villages qui se mettent en association pour pouvoir produire des choses qui sont de l'ordre de la culture.
On va continuer à parler justement de cette opposition entre nature et culture via les villages, via leur évolution et également l'évolution du paysage. Vous restez avec nous, Pascal Diby. Je rappelle le titre de votre livre, Le village métamorphosé chez Plon. Vous serez rejoint aux environs de 8h20 par Aurélien Bélanger, notre camarade écrivain qui lui réfléchit beaucoup également sur le paysage, et par Héloïse Conessa qui est conservatrice du patrimoine et qui a notamment eu en charge cette exposition sur le paysage français, une aventure photographique présentée à la BNF à l'automne 2017.